Bientôt 8h23 à Paris, c'est l'heure de la revue de presse des journaux français avec Frédéric Couteau. Bonjour Frédéric.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une ce lundi, l'État islamique qui retourne à la clandestinité.
Oui, c'est le constat établi par Libération ce matin. L'organisation terroriste a perdu samedi avec Barouz, la dernière poche de résistance de son califat, autoproclamé en 2014. Le groupe encore actif a immédiatement appelé ses sympathisants à poursuivre le djihad. Sur les terrains syriens et irakiens, l'État islamique est donc retourné à la clandestinité, poursuit Libération, tout en conservant un fort pouvoir de nuisance, mais l'organisation a surtout réussi à s'implanter au-delà des frontières de son califat, en Afghanistan, en Libye, dans le Sinaï égyptien, au Sahel, ainsi qu'en Asie centrale. Bien que l'EI se soit transformé en un réseau clandestin, il reste une menace en tant qu'organisation globale, dotée d'une direction centralisée, estimait en février dernier le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans un rapport sur le sujet. L'EI a certes perdu sa base arrière, mais pas encore son aura. En effet, point Le Figaro, la chute de Barouz ne signifie pas la fin de l'histoire djihadiste. L'État islamique est revenu à ce qu'il était avant de conquérir au grand jour, une organisation clandestine faite de cellules dormantes et de groupes de guérillas réfugiés dans le désert. Et puis il y a les fameuses provinces du califat, donc ses succursales implantées au Sinaï, au Yémen, en Afrique ou encore en Afghanistan.
Alors prévient Le Figaro, baisser trop vite la garde serait dangereux.
Oui, on a vu la tentation électoralement payante de Donald Trump de ramener illico ses gars à la maison. Ses alliés, France en tête, et ses conseillers l'ont incité à plus de raison, mais il reste à définir une stratégie de long terme pour prévenir des résurgences locales et le risque d'une nouvelle campagne terroriste en Europe, estime encore Le Figaro et ailleurs. La croix renchérit, la lutte est loin d'être terminée, de nombreuses cellules de Daesh restent actives et les conditions d'une révolte se drapant dans les oripeaux du fanatisme religieux sont toujours présentes. En Syrie et en Irak, les populations sunnites resteront perméables à une surenchère violente, tant qu'elles resteront marginalisées par les pouvoirs en place. En France et en Europe aussi, les facteurs pouvant conduire à des actes terroristes n'ont pas disparu, relève encore Le Quotidien catholique, souvent d'ordre social, culturel, psychologique. Ils font l'objet de politiques publiques sectorielles qui ne seront efficaces que dans la durée.
À la une également, la visite de Xi Jinping en France.
Après l'Italie, après Monaco, Xi Jinping a poursuivi hier dimanche sa mini-tournée en Europe par une troisième et dernière étape en France, donc, relève Le Figaro. Le président chinois a sans doute apprécié le charme printanier de la Côte d'Azur où il a débuté son séjour, mais le climat a changé depuis sa dernière visite dans l'Hexagone, pointe Le Figaro, il y a exactement 5 ans, lorsqu'il avait été reçu avec faste au château de Versailles par François Hollande. L'empereur rouge est attendu par un chef de l'État qui a durci le ton et qui tente, avec Berlin et Bruxelles, d'organiser un front européen uni face aux ambitions chinoises.
En effet, précise le républicain lorrain, ce front commun Paris-Berlin-Bruxelles marque un tournant.
Oui, tout comme l'idée de faire émerger une politique industrielle européenne pour contrer l'offensive chinoise. Cette résistance collective n'aurait pas été possible si l'Allemagne n'avait soudain changé de pied, relève Le Quotidien lorrain, traumatisé en effet par le rachat de l'un de ses fleurons par les Chinois et par un rapport alarmiste du patronat allemand sur les véritables intentions de Pékin. L'Allemagne n'est plus très loin de partager le souci de la France de protéger coûte que coûte les intérêts économiques de l'Europe. Sans le vouloir, M. Xi pourrait bien avoir réussi à renforcer l'Union européenne au moment où celle-ci est attaquée de l'intérieur. Sauf que, tempère le journal de la Haute-Marne, sauf que certains pays de l'Union, et pas des moindres, comme l'Italie, cède aux sirènes chinoises, sans compter la Hongrie, le Portugal ou encore la Grèce. La Chine a compris depuis longtemps que les égoïsmes nationaux prenaient le pas sur l'idéal européen. La mainmise de l'empire du milieu sur des intérêts vitaux ne saute pas encore aux yeux pour l'instant.
Un second référendum pour le Brexit, ce serait la solution à l'impasse dans laquelle se trouve le gouvernement britannique.
Et de cela, des millions de personnes en sont persuadées en Grande-Bretagne. Une pétition en ce sens a en effet recueilli plus de 5 millions de signatures. Et plus d'un million de Britanniques ont manifesté samedi à Londres, pointe Libération, pour réclamer un nouveau référendum. De retour de Bruxelles avec un nouveau calendrier, la Première ministre Theresa May est plus que jamais affaiblie à l'aube d'une nouvelle semaine cruciale. En effet, précise le journal. Depuis le sommet européen de jeudi et vendredi dernier, d'où il est revenu avec deux nouvelles dates pour le Brexit, à savoir le 12 avril ou encore le 12 mai, Theresa May semble vivre ses derniers jours au 10 Downing Street. La semaine qui s'ouvre s'annonce une fois encore cruciale. Un nouveau vote sur l'accord de retrait conclu avec l'Union européenne n'est même pas garanti. Parallèlement, le Parlement pourrait voter sur une série d'options pour essayer de définir une direction qui remporterait une majorité. Mais là encore, rien n'est assuré. En tout cas, remarque l'Alsace, les 5 millions de signatures recueillies par cette fameuse pétition en faveur d'un nouveau référendum et la manifestation géante de samedi témoignent d'une envie grandissante du peuple britannique de revenir aux urnes. Cela permettrait de légitimer le Brexit et ses conditions, ou bien au contraire de remettre en cause par un vote le résultat du référendum de 2016. Un tel scénario n'est pas à exclure, il est cependant très probable. Il aurait pourtant, estime encore l'Alsace, le mérite de sortir définitivement le Royaume-Uni de ses ambiguïtés.
Et les dates, c'est bien 12 avril et 22 mai. Hein, votre langue a fourché, mais vous l'aviez bien écrit, Frédéric. Enfin, européenne et remaniement, Nathalie Loiseau devrait démissionner ce lundi. C'est ce que croit savoir le journal Le Parisien.
Oui, la ministre des Affaires européennes pourrait être remplacée par le conseiller Europe d'Emmanuel Macron, à savoir Clément Beaune. Par ailleurs, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui piaffe d'impatience apparemment de lancer sa campagne pour les municipales à Paris. Benjamin Griveaux pourrait aussi être libéré, croit encore savoir Le Parisien. En tout cas, il aura fort à faire face à la maire sortante, Anne Hidalgo, qui reprend du poil de la bête dans les sondages. Hidalgo reprend la main, s'exclame Libération en première page. Il y a un an, nous rappelle le journal, elle était au fond du trou, assommée par le ratage des nouveaux Vélib, raillée par les auteurs d'un pamphlet « Notre drame de Paris » comme par les magazines de droite. Et pourtant, relève donc Libération, Anne Hidalgo est redevenue la favorite de la bataille de Paris. Preuve que l'on n'est jamais mort en politique.
La revue de presse signée Frédéric Couteau sur RFI.